Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Radio Foot de retour avec un seul mot à la bouche pour bien débuter la semaine. Enfin une victoire dans un grand match pour l'OM. Enfin une réaction humaine, même si évidemment critiquable, de Kylian Mbappé. Tout arrive également en Angleterre. Enfin un but encaissé par Liverpool. Enfin un but marqué par Pierre-Emerick Aubameyang. Enfin aligné aux côtés de Lacazette. Et puis à Zurich, l'exaltation est à son comble puisque le trio de finalistes du prix The Best de la FIFA a enfin été dévoilé. Le petit bémol, tout petit bémol, c'est qu'aucun Français, aucun champion du monde, donc, n'en fait partie. C'est à la fois un petit peu mal. L'exaltation à son comble également dans ce studio avec Philippe Doucet, le plus exalté, clairement, de nos consultants.
Ah bah oui, c'est très, bonjour, très, très clairement, complètement exalté. Je compte finir l'émission à poil.
Parfait. Dommage, on filme pas. Pas de Facebook Live.
S'il vous plaît, Philippe, je suis juste à côté de vous, si vous pouviez éviter. Merci.
La voix de Salim Bongali. Bonjour.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Vous voulez casser l'ambiance. Vous pouvez être tenté de casser l'ambiance.
Pourquoi? Non, je veux pas que Philippe soit à poil. C'est surtout ça, en fait.
Oui, voilà. Mais vous faites un peu la tête parce que votre club de cœur, West Ham, fait absolument n'importe quoi
non,
en première ligue.
Non, mais c'est que le début de saison. Ne vous inquiétez pas. On va se relancer après la trêve. Y a
en
pas
tout cas, on va pas remuer le couteau dans la plaie. On en parlera.
Merci
pas,
Hugo.
Promis. Mais on en parlera un jour, quand même, pour vous embêter. Intenable, en revanche. Marc Libra. Bonjour Marc.
Bonjour à tous. D'ailleurs, s'ils se mettent à poil, je filme pour tous nos auditeurs qui nous regardent. Je les embrasse tous dans le monde entier.
Vous assurez aussi la vidéo.
J'attends
un bon consultant bien discipliné. Radio Foot, préparé avec David Finzel, réalisé par Guillaume Ploquin. C'est parti.
Le centre de Payet et la tête de Mitroglou. Cette fois, est ajustée. Le duo Payet-Mitroglou qui permet à l'OM de prendre l'avantage dans le temps additionnel de la première période.
On était dans le match, c'est une belle première mi-temps, on était bien. Et puis en 10 minutes, j'ai relancé le match à moi tout seul. C'était dur mentalement, très très dur. J'ai vu les étoiles à un moment donné, c'était pas facile de relever la tête.
Sakai. Thauvin, c'est bien joué Thauvin qui aurait trouvé Hiroki Sakai.
Florian Thauvin. Florian Thauvin, encore une fois, le libérateur de l'Olympique de Marseille à l'origine et à la conclusion.
Cette équipe de l'OM, elle est fantastique parce qu'elle a du caractère et elle a été capable, malgré ses deux coups du sort, d'aller non seulement égaliser, mais gagner tout à la fin du match.
Et c'est Germain et Benaglio qui se loupe, et Valère Germain qui ne célèbre pas sur sa terre de naissance footballistique ce but.
Une victoire dans un grand match pour l'OM en Ligue 1, c'est une première depuis très longtemps puisque l'an passé, Marseille ne remportait pas ce genre de rencontre et c'est peut-être ce qui lui avait coûté une place en Ligue des Champions. Alors Valère Germain a donc mis un terme à cette malédiction au terme d'un match, vous l'avez entendu, riche en rebondissements. S'agit-il pour autant d'un match de référence, Philippe Doucet?
Bon, déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire match référence. J'ai jamais trouvé
celui
une définition.
Celui dont on peut tirer des enseignements, ouais, qui peuvent vous aider. Par
oui,
la
mais la réalité du haut niveau, c'est qu'il faut en faire 50 dans la saison. Donc les gens qui me disent ah ben là j'ai mon match référence, donc c'est bon, c'est parti. Oui et non. Parfois non. Parfois oui, parfois non. Lyon avait un match référence quand ils ont battu le PSG. Ils ont pu gagner pendant un mois et demi. Derrière.
Donc, 8 matchs à l'époque, ouais.
Donc voilà, bon, ce genre d'expression ne veut pas dire grand-chose. Maintenant, pour Marseille, évidemment, c'est très important, parce que l'an dernier, ils s'étaient lamentés de ne pas arriver à gagner les gros matchs, et en même temps, ils gagnaient tous les petits. Donc voilà, il faudra qu'ils trouvent un équilibre qui, pour l'instant, n'est pas au rendez-vous. Je crois qu'aucune équipe n'est vraiment prête parmi les équipes de haut niveau, ni Monaco, ni Marseille, et ça a beaucoup joué dans ce match qui est parti un peu dans tous les sens.
Marc Libra, vous êtes aussi peu exalté, vous le Marseillais, que notre ami Philippe Doucet.
Non, mais je suis agréablement surpris, je ne m'attendais pas à ce que les Marseillais... joue de cette façon-là, parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, à part la seconde période face à Toulouse lors de la première journée où on a vu un Dimitri Payet excellent, une bonne équipe, le reste face à Nîmes ou Rennes, c'était assez faible.
Ils sont donc là, pas vous prêts, avez un peu ça, vibré, c'est sûr. Le but de
non,
Germain,
non, non,
il vient
non,
de
non,
nulle part.
Mais bien sûr. Mais après, Germain, c'est pas nouveau, puisque juste avant, il y avait un centre où il coupe la trajectoire, il est un petit peu court. Autrement, il apprend, il peut la mettre au fond. Germain est un très bon joueur de tête. La victoire est belle, mais ce qui est beau, c'est qu'on peut voir Mitroglou qui a été très bon, quand on peut voir que physiquement il est au niveau, alors c'est peut-être qu'on ne l'a jamais vu autant, puisque c'est la première fois, Stéphane Guy nous disait, qu'il touche autant de ballons sur une première période. Il a été très bon. On a la certitude que Thauvin, aujourd'hui, à ce niveau-là, ben, le costume de Marseille est un petit peu trop petit pour lui, parce qu'il est vraiment, il est rentré 20 minutes, il avait du feu dans les jambes, donc ça c'est bien. Après, voilà, Strootman, tout ça. Le plus important, comme l'a dit Philippe, les deux équipes n'étaient pas prêtes physiquement, et c'est les individualités qui ont fait la différence. Falcao a pu le faire, puisque on disait, ah, Falcao, il est pas très bien. Deux ballons qui traînent à l'arrivée, il est passeur, enfin, passeur sur Tielemans, et le but, il est là pour le mettre au fond. Donc, Marseille a eu la différence avec ses entrants, et surtout, pour moi, Thauvin, qui change, quoi qu'il arrive, le cours du match.
Salim. Les enseignements, alors Marc les a évoqués, notamment concernant Mitroglou, comme quoi il n'y a pas de grand attaquant, comme on le disait régulièrement ces dernières semaines, mais il y a peut-être un attaquant, en tout cas, qui peut jouer ce rôle très clairement, le Grec, donc en poste de numéro 9. Il y a Thauvin aussi, alors Thauvin, oui, il a été excellent même dans ces 20 minutes, mais il a peut-être été un petit peu piqué par le fait justement de ne pas jouer, en fait, ouais, de ne pas être titulaire, parce que faut rappeler que face à Rennes, il avait quand même été mauvais pour ne pas dire autre chose. Face à Nîmes, malgré un but marqué,
il y a ce coup d'éclat et c'est tout.
Exactement. Face à Nîmes, malgré son but, il avait quand même été en dessous de tout. Donc il avait.
Et Toulouse, il rentre à la fin, il marque ce but, donc du coup, il a le crédit pour jouer.
Alors, il a été piqué de ne pas démarrer peut-être, et donc ensuite, il a été efficace et donc montré que au final ce côté droit est évident pour lui. Donc ce sont ça les enseignements au final. Donc oui, c'est un match référence, si vous voulez, sur ces questions précises. Après, il y a d'autres interrogations, on évoquera notamment défensivement.
Où là, on peut les évoquer, allez-y.
Bah, le problème, c'est que défensivement, alors, en dehors des individualités...
Vous allez encore vous en prendre à Adil Rami, il a fait un amende honorable.
Non, mais bon, il l'a dit lui-même, il a été catastrophique, ses deux ballons, ses deux erreurs, voilà. On l'a tous vu, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand même, il y a eu quand même beaucoup trop de cases, même en seconde période, pour cette équipe de Monaco. Défensivement, il y a beaucoup trop d'errance, et on le voit. Face à Rennes, on l'a vu. Face à Nîmes, on l'a vu. C'est pas normal face à des équipes moyennes, parce que Monaco, oui, offensivement, évidemment, est au-dessus. Défensivement, c'est pas le cas. Mais face à Nîmes et face à Rennes, déjà, face à des équipes moyennes, de concéder autant d'opportunités. Et Marseille, encore hier, en a trop concédé.
C'est d'accord pas forcément. Là-dessus. Oui, après, c'est le secteur défensif là qu'il va falloir
On va taper sur Rami à juste titre, ouais, mais physiquement, il est pas prêt. C'est une grosse carcasse qui a plus de 30 ans. Alors, on m'a dit, oui, mais il a pas joué la Coupe du Monde. Ouais, mais on est d'accord, mais il était avec le groupe, il a fait la fête, il a participé. La décompression doit être impressionnante. Et Rami a besoin de 4, 5, 6 semaines pour être au top. Là, on l'a mis rapidement. Il était dépassé et il le sait. Donc, si physiquement, il est pas au top, si physiquement, il est pas présent, ça donnera ce genre de choses.
Mais le problème, c'est qu'il y a Rami qui est dans ce cas-là. Qui était en finale de Coupe du Monde. Vous avez Luis Gustavo qui pourrait dépanner en défense, mais c'est pas quand même son poste. Bouba Camara qui est encore tout jeune.
On a compris en gros que c'était le chantier prioritaire. La défense centrale, ça l'était cet été, ça l'était déjà un peu la saison passée. L'OM 5e au classement. On va parler de Monaco, mais d'abord on va faire un petit clin d'œil aux supporters qui suivent et supportent l'Olympique de Marseille en Afrique, sur le continent. Le site OM Nation Abidjan a filmé ce groupe de fans olympiens en train de suivre devant leur télévision le dernier but de leur équipe.
Mets-la au point, mets-la au point, Rami, mets-la au point. Mets-la au point.
Très populaire en Afrique, vous confirmez.
Ça reste encore le club le plus populaire de l'Afrique de l'Ouest, même si le PSG remonte beaucoup et même si l'internationalisation fait que vous voyez peut-être plus de maillots du Real, du Barça ou autre. Mais malgré tout, quand vous discutez avec les habitants de ces pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, l'OM, ça reste quelque chose, oui.
Monaco, à présent sur le banc des accusés dans nos Radio Foot. Le club de la Principauté a de nouveau beaucoup vendu cet été, beaucoup recruté également, recruté des joueurs qui devront se révéler pour à leur tour être vendus extrêmement cher, sachant que toutes les recrues n'étaient pas alignées hier. Donc on a encore un peu du mal à identifier le visage de cette ASM 2018-2019. 4 points en 4 journées pour le club de la Principauté, qui ne nous avait pas habitués à ça depuis son retour dans l'élite en 2013. Alors oui, l'entraîneur Jardim, c'est un alchimiste, il peut faire des merveilles avec n'importe quel effectif, mais est-ce que cette année, on ne lui a pas trop compliqué la tâche, selon vous, Philippe ?
Oui, là, c'est... Oui. Bon, tous les ans, c'est compliqué. Hein. Tous les ans, l'équipe est en régression par rapport à l'année précédente. on croit qu'elle est en régression, parce qu'il faut quand même rappeler que l'année où ils ont été champions, ils avaient aussi beaucoup vendu, mais ils avaient aussi des jeunes qui se sont révélés. On va pas refaire évidemment l'histoire, mais là clairement l'équipe elle est en dessous. Il y a plein d'absents, énormément d'absents. Il y a des joueurs de l'an dernier qui ont mal fini la saison. Faut pas l'oublier non plus. Ça, c'est un élément qu'on oublie souvent.
Par exemple.
Oui, Sidibé, la défense centrale. La fin de saison de Monaco avait été terrible. Ils avaient échappé de peu à un renversement. Ils étaient restés devant Lyon et Marseille, mais d'extrême justesse. Mais on sentait déjà que c'était à la limite. Mais je ne suis pas tellement surpris qu'ils démarrent aussi mal. Tout en étant.
Mais est-ce que vous êtes inquiet?
Raisonnablement inquiet, parce que je pense que Monaco, le modèle de Monaco permet de se tromper à un moment. Permet, pas très longtemps, mais un certain temps, oui.
Oui, sauf que jusqu'ici, la concurrence, elle était suffisamment faible pour permettre à Monaco d'avoir quelques mois pour
construire
son effectif. Est-ce que c'est pas plus dur? Voilà, vous en pensez quoi?
Non, je pense qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, ils vont se recroiser peut-être sur le match retour Marseille-Monaco. Monaco aura tout à fait, enfin, elle aura un autre visage, parce que la plupart des joueurs ne joueront pas forcément. Quand on voit le banc, les absents, il y a encore Golovin qui doit rentrer, il y a pas mal de joueurs, il y a Chadli,
le gardien,
au dernier moment. Il y a le gardien, on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que c'est même avant la rencontre, on se disait, Benaglio est en train de perturber la hiérarchie finalement sur le troisième but. S'il mène un homme au poteau, il n'y a pas but. Passons, c'est l'histoire. Ouais. Mais c'est vrai que cette équipe monégasque, quoi qu'il arrive, on donne les clés à Jardim avec 15 ou 18 joueurs qui s'en vont. Il y en a 15 qui arrivent, il faut reconstruire. Je ne suis pas forcément inquiet pour lui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas se séparer de Jardim, parce que lui est capable de faire ça et il l'a montré depuis de nombreuses années. Et les dirigeants sont au courant depuis le temps. On lui donne ça et puis à l'arrivée, ça donne ce genre de choses.
13e Monaco, vous êtes inquiet, Salim?
En fait, c'est bizarre. À chaud, hier soir, j'étais inquiet, effectivement, pour l'AS Monaco. Et en fait, avec un peu de recul, en voyant donc cet effectif, en voyant les absents qui étaient donc pas là, forcément, en voyant certains joueurs qui joueront à d'autres postes. Moi, on parle de Dibos Sidibé. Moi, je reste persuadé que Sidibé peut jouer à droite. Et Heinrich, lui, il a joué à droite. Il sait jouer dans l'axe. Il sait jouer surtout milieu def. Donc, comme Fabinho à l'époque. Fabinho, rappelez-vous, lorsqu'il arrive à Monaco, il doit jouer arrière droit. Finalement, il s'est révélé au poste de milieu de terrain. Et on voit ce qu'il en est aujourd'hui pour lui. J'ai envie de dire, Jardim sait faire ça, sait créer des alchimies assez folles. Subasic va revenir, Kamil Glik, à un moment donné, il va pas rester à ce niveau-là. Enfin, j'ose de croire, il a été bon, il a été très bon.
C'est ce que dit Philippe depuis la saison. C'est qu'on finit ça sur un mauvais. Enfin, ça se passe mal pour eux. Ils sont encore là.
Après, voilà. Mais après, l'inquiétude, elle est défensive, elle est pas offensive. Offensivement, quand Golovin va revenir, Jovetic, Falcao, ça va tourner. Ça, y a pas trop d'inquiétude. C'est défensivement où on peut se poser la question. Malgré tout, Marseille, je veux voir par la suite quand même ce qui va se passer pour l'OM. Il y a la Coupe d'Europe aussi qui va forcément gêner certains organismes. Je veux voir notamment ce qui se passera pour l'OM.
On reste dans le sud de la France pour évoquer l'autre fait marquant du week-end en Ligue 1.
Ouais. Il y a eu certainement un mauvais geste de Savanier et Kylian Mbappé. Qui va se faire exclure, oui. Ça ternit cette fin de rencontre.
Si c'est à refaire, je le referai et je m'excuserai auprès de tous les supporters et de tout le monde, mais moi je ne peux pas tolérer ce genre de geste. La même faute où il y a intention de jouer le ballon, il n'y a pas de problème. Il n'y avait aucune intention de jouer le ballon là, on l'a tous vu, donc voilà, mais bon, c'est pas grave. J'irai me rendre à la commission et j'irai me défendre.
Petit rappel des faits. 4 victoires. Laissez-moi parler. Salim, je vous donne la parole. Promis. 4e victoire en 4 journées pour le PSG à Nîmes. 4-2 avec un but magnifique au passage de Mbappé. Ça, c'était samedi. Mais le jeune champion du monde français, toujours ce samedi, a surtout brillé par sa nervosité. Un geste d'humeur sanctionné par un jaune en début de match. Et puis un autre geste d'humeur sanctionné par un rouge en fin de partie. Il risque gros Mbappé, souvent salué pour sa maturité. Alors, faut préciser que ce geste d'humeur est consécutif aussi à un mauvais geste reçu, infligé par un joueur nîmois. Ce qui interroge au-delà de sa réaction et du carton rouge, c'est son aplomb. Après, devant les médias, on se souvient qu'il avait déjà pris un rouge pour un mauvais geste. Une semelle sur le Sénégalais Ismaïl Assar l'an passé, il avait fait amende honorable. Et là, au contraire, se présente plein d'aplomb devant les médias. Est-ce que vous comprenez cette réaction, Philippe Doucet?
La réaction immédiate, c'est-à-dire dans l'après-match, oui, on peut le comprendre. Ce que je comprends pas d'ailleurs.
L'après-match, de suite.
Devant les médias ou lorsqu'il pousse le joueur?
Ah, d'accord, l'après-match.
Devant les médias, quelques minutes après et autres. Ça, je peux encore comprendre à peu près qu'il ait à ce moment-là une maladresse. Ce que je comprends beaucoup moins, c'est que fait le club.
Voilà.
Parce que le PSG, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que dans un match comme ça, où le PSG a quand même pas été très, pas bien bon, bien bon, hein, si vous briefez pas, il y en a un qui peut sortir en disant, mais si on joue comme ça, on va se faire éclater, on est nul, on aurait pu prendre 4 buts, etc. Non, mais vous pouvez sortir. Et l'exemple de Mbappé est pire, parce que non seulement il y a une chance qu'il évoque éventuellement des dysfonctionnements dans l'équipe, mais il peut, lui, parler de son carton rouge. Et c'est dramatique qu'il n'y ait personne au club qui parle aux joueurs. Pour lui dire, attention, tu ne parles pas du carton rouge, tu dis rien, etc. Parce que sa phrase, elle est nulle. Quoi. Elle est... Et elle peut... je peux la concevoir. Je veux dire, j'en veux pas à Mbappé. Je veux dire, je peux concevoir. Il a 19 ans, mais c'est même pas qu'il ait 19 ans. On peut avoir une réaction comme ça parce que, visiblement, il a eu peur. Voilà. Il a eu peur de se faire blesser. Je peux comprendre. Ça, je peux comprendre qu'il soit sur les nerfs. Mais le club, quoi. C'est dingue. Alors le lendemain, il y a les excuses qui vont bien, mais c'est tard.
Pour les supporters.
Ouais, on rappelle qu'il a beau être jeune, Kylian Mbappé, il est champion du monde, donc il y a peut-être un devoir d'exemplarité. J'aime pas beaucoup cette expression, mais en tout cas peut-être une attitude à avoir. Et là, on a l'impression qu'il se pose presque au-dessus de l'arbitre.
C'est ça.
Il peut m'expulser. Moi, je fais ce que
exactement.
Je veux.
Exactement. C'est ça le truc, c'est que on l'a dit, il a poussé le joueur de l'Ukraine, Savanier. Voilà, il doit être exclu et ce fut le cas et on l'a vu, nous tous, il n'y a pas de problème. C'est après, moi, ce qui me choque quand même, Philippe, c'est quand il dit « je conçois pas, moi, d'être touché ainsi, je ne le tolère pas ». Voilà, c'est le terme qu'il a utilisé. J'ai presque envie de dire, qui es-tu pour dire ça?
C'est l'arbitre qui
tolère ou pas ce genre de geste.
Non, mais Mbappé,
c'est l'arbitre qui doit sanctionner.
Mais Salim, Mbappé, c'est un champion. Il est pas humble. Évidemment qu'il est pas humble. Moi, quand de temps en temps, ah, il est formidable. Ah, il est poli.
Bien sûr.
Ah, il est humble. Mais non, bien sûr que non, il est pas humble. S'il était humble, il serait pas Mbappé. Il est pas humble, bien sûr que non, il est persuadé de sa force, bien sûr qu'il est prétentieux éventuellement, etc. Il a du caractère.
Il a souvent été très bon en termes de communication.
Il est entre guillemets, il est calculateur, mais dans le bon sens du terme. Il sait parler là, mais là, il doit pas dire ce genre de choses, il se met au-dessus de l'arbitre.
Si on écoutait Marc Libra, qu'est-ce que vous avez pensé de cette réaction de Kylian Mbappé? Vous avez eu des mots très durs, hors antenne, désolé, je balance.
Oui, oui, ah non, mais moi je, non, mais vous avez.
Ah, vous avez fait l'émission avant?
Hugo, je suis arrivé à 14h.
Il fait l'émission deux, trois fois, c'est un vrai pro avant d'entrer en piste.
Bon,
Marc
merci,
Libra.
Mon cher Hugo. Non, mais ce qui me déçoit, c'est que certes, sur le coup, bon, mais il a très peur, mais Savanier, il y a faute, mais il part pour lui faire un coup de pied. Au dernier moment, il réfléchit, il s'arrête. Donc c'est vrai qu'il percute. Mbappé pète un câble. Le seul gros problème, et là je suis pas d'accord avec Philippe, c'est que trois quarts d'heure, une heure après, on peut pas venir à la presse comme ça et dire ce genre de choses. Parce que j'ai pété les plans sur un terrain, ok, mais 3-4 secondes après, vous revenez sur terre. Merde, j'ai fait ça. Je l'ai poussé. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Après, on s'assoit dans le vestiaire. On a quand même un ou deux joueurs. Le coach, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Explique-moi. Là, lui, il sort 3 quarts d'heure, une heure après. Il sort tranquillement. Mais personne lui prend par les oreilles.
Mais c'est ça, c'est ce que dit Philippe.
Non, mais là on se rejoint. Mais pourquoi il n'y a pas un dirigeant ou quelqu'un qui dit, mon garçon, maintenant tu vas te calmer, t'es champion du monde, ok. Mais maintenant tu vas redescendre sur terre. Alors quand on voit Buffon qui arrête pas de gueuler, qui se lève, mais qui est le coach? Ça aussi, non, mais ça me fait bien rire. Le coach, il a fait des bisous. Non, mais je veux bien. Il a du talent, le potentiel est énorme. Mais après, il faut pas qu'il se prenne pour ce qu'il est pas, parce que ça, c'est que le début de sa carrière. Croyez-moi, il va jouer sur certains joueurs, ils vont lui rentrer dedans. Et là, Savanier, qui est, pour moi, il n'y a pas fait mal. Il tombera sur des vrais marioles qui vont lui faire mal. Donc attention, parce que là, c'est la porte ouverte pour se faire massacrer par la suite.
Allez, le dernier mot, Salim.
En tout cas, ce genre de propos qu'il a pu tenir après le match, là, il aurait pu avoir 2 matchs de suspension, potentiellement. Mais en tenant ce genre de propos devant la commission, il ne pourra peut-être avoir les 3 matchs.
Non, tu
parce qu'il ne regrette pas, justement.
Allez, rapidement, parce qu'on est un tout petit peu en retard, un tout petit peu. La 4e journée de Ligue 1 avait débuté vendredi par la défaite à domicile de Lyon face à Nice, 1-0, l'OL 8e, 2 victoires, 2 défaites au compteur. Bon, le match avait été quand même largement dominé par Lyon. Rapidement, inquiet ou pas
Lyon, pas prêt.
Lyon après ce genre de match?
Non. Lyon pas prêt. Oui, le même constat que d'autres équipes, PSG compris. Ce sont des équipes qui aujourd'hui sont pas vraiment prêtes. L'après Coupe du Monde est très très long pour toutes ces équipes et difficile d'enchaîner.
Bon, là je sens qu'il y a un consensus. Alors on peut même aborder encore un autre sujet.
Réussite aussi. Le gardien de Nice était en état de grâce, donc à un moment donné.
Donc pas d'inquiétude.
Nice a eu la réussite qu'ils n'ont pas eu depuis le début de la saison, ça aussi.
Dernier sujet Ligue 1, Ben Arfa à Rennes. Rennes qui a gagné et séduit 2-0 face à Bordeaux. C'était hier, c'était ce,
oui, c'est ça.
Ce dimanche. Ben Arfa qui sort d'une saison blanche, l'enfant surdoué et l'enfant surdoué du football français, mais si souvent décevant, il va se relancer, Ben Arfa. Qui va là?
Je pense, ouais.
Ouais?
Moi, je pense. Je pense que c'est un bon choix, c'est un choix sage. Il aurait pu céder à d'autres tentations
plus exotiques.
Peut-être plus exotiques, peut-être plus rémunératrices, ou même pas forcément plus exotiques, mais même en Ligue 1. Et je pense que le choix de Rennes est le plus sage, parce que ça me paraît être le club le plus construit, et je pense que Atem a besoin d'un cadre autour, et je pense que Rennes peut lui offrir ça.
Vous êtes tous d'accord là-dessus?
Moi, je trouve que là, actuellement, il a pas sa place dans cette équipe-là, qui tourne très bien avec un Clément Grenier et un Benjamin André qui sont très très bons. Et on retrouve Grenier comme avant sa demande dans l'équipe de France 2014 avant sa blessure, et je trouve que c'est très important maintenant à lui de jouer.
Rennes 6e d'une Ligue 1, dominée par le PSG, devant Dijon et Toulouse et Lille. Voilà, des clubs qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là.
Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Robertson to Mané, and Mané, with his fourth of the season, steers Liverpool into an early lead. Firmino, 2. Ally to the opportunism of Firmino, who's off the mark for the season. And Liverpool are cruising here. And Alisson. Oh, now what's Alisson done? He's lost it to Iheanacho. Gazal. Liverpool have conceded a goal for the first time this season. And it's down to their multi-million pound keeper, Alisson.
Je suis sûr que vous vous en doutez. Le football anglais est désormais à l'honneur dans Radio Foot. Nous parlions du Paris Saint-Germain.
Oui.
Qui n'a pas encore germé. Place maintenant à son futur adversaire en Ligue des Champions, à savoir Liverpool, qui réussit un sans faute ou presque en première ligue pour l'instant. 4 matchs, 4 victoires, grâce notamment à Sadio Mané. 4 buts en 4 matchs pour le Sénégalais. Meilleur joueur du mois d'août.
Exactement, il a obtenu ce titre devant d'autres joueurs qui étaient présents. Van Dijk notamment en défense. Il y avait également Marcos Alonso à Chelsea. Donc il a obtenu ce titre très nettement, effectivement.
Je disais sans faute ou presque pour les Reds, parce que on peut pas passer sous silence la boulette de l'onéreux portier Alisson. Il doit remplacer Karius. Finalement, il fait un peu les mêmes erreurs. Premier but encaissé par les Reds cette saison. Est-ce que c'est une indication, voilà, des possibles failles dans cette équipe?
Une commotion cérébrale. Hein.
Encore un coup de Sergio Ramos.
C'est ça.
Jamais s'en sortir avec ce Sergio. Est-ce que c'est une indication? Voilà, il y a encore des choses à travailler chez cette équipe de Liverpool, histoire de rassurer un peu les supporters parisiens.
Le truc, c'est que Jürgen Klopp le dit sans cesse en conférence de presse, notamment lui veut du jeu long, du jeu court, il veut alterner, il n'hésite pas à demander notamment à son gardien, en l'occurrence Alisson Becker, de relancer aussi régulièrement court pour justement pouvoir maîtriser cette balle dès le début. Et Alisson l'avait montré lors du match précédent face à Brighton, il était capable de faire un coup du sombrero à un moment donné sur un joueur de Brighton,
petit
il était capable
tranquillement,
exactement, ouais. Il était capable de tenter de dribbler d'autres joueurs. D'ailleurs, déjà face à Brighton, ça avait été très risqué, la balle avait été récupérée, au final il n'y avait pas eu de danger à la conclusion de l'action en question. Là, il a tenté également de dribbler, ça n'a pas fonctionné. Kelechi Iheanacho, le Nigérian, a récupéré, et Rachid Ghezal, d'ailleurs, a marqué son premier but de cette saison.
L'Algérien.
Oui, Alisson sait faire ça. D'ailleurs, après le match, en fait, Claude Puel expliquait qu'il a demandé à ses joueurs avant la rencontre, pressez ses attaquants, pardon. Allez-y, tentez toujours de chercher, il pourra peut-être faire une erreur, en tout cas, se forcer à relancer et donc récupérer de notre côté la balle plus rapidement. Au final, il y a eu plus de réussite. Donc oui, Alisson, il aime jouer. Ça, c'est un fait. Donc, ça peut être un pseudo point faible. J'insiste sur le côté pseudo point faible parce que malgré tout, dans ses parades, il est présent. C'est le principal quand même, au final. Il est capital dans ces gestes-là et depuis le début de la saison.
Il faut trembler si on est supporter parisien et qu'on voit cette équipe de Liverpool mener un train d'enfer en Première Ligue.
On n'en est pas là, mais en tout cas, Liverpool, on le sait depuis de toute façon, ils sont finalistes de la Ligue des Champions l'année dernière jusqu'à nouvel ordre. Ça ne nous a pas échappé, on s'en souvient encore.
Ce mercato, c'est impressionnant.
Et c'est une équipe encore plus solide aujourd'hui, qui a notamment s'est renforcée au milieu de terrain, qui était un petit peu le point un peu moyen, et renforcé dans les buts, parce qu'Alisson Becker est un très bon gardien et qui a un très bon jeu au pied. Alors, il prendra peut-être 2 ou 3 buts dans la saison.
Un peu casquette comme ça.
Mais moi, je crois que tous les grands entraîneurs, genre Guardiola ou autres, qui apprécient les gardiens qui savent jouer au pied, admettent que, ils se trompent 1 ou 2 fois, 2, 3 fois dans la saison. Ça coûte pas grand chose par rapport à un gardien qui vous sécurise toute la saison, qui relance bien toute la saison. C'est pas très grave de prendre 2 ou 3 buts de la sorte, surtout quand on gagne. gagne en plus à l'arrivée. Donc oui, Liverpool est meilleur que l'an dernier, plus complet que l'an dernier. Et donc ce sera un candidat intéressant pour la Première Ligue, pour être champion. La Ligue des Champions, c'est autre chose. Paris on le sait par cœur. La Ligue des Champions, il suffit de gratter ses deux premiers matchs. On se retrouve éliminé au premier tour. C'est arrivé à des grands clubs comme l'Atlético l'an dernier. Donc rien ne garantit que Liverpool sera à l'arrivée. Rien ne garantit que le PSG sera à l'arrivée. On le sait bien depuis longtemps.
Vous dites qu'on n'en est pas encore là. C'est le 18 septembre.
Hein. Oui.
C'est pas non plus si loin que ça.
Dans ce groupe, un des deux peut être éliminé, tout à fait. Hein.
Liverpool voulait pas qu'on dise du mal de Liverpool, ça pareil, je balance que notre petit briefing d'avant émission, j'avais pas le droit d'émettre des doutes sur les Reds de Liverpool, Marc.
Ah non, pas du tout, moi je pense que Paris est favori de son groupe quoi qu'il arrive, Paris est au-dessus.
Il y a un finaliste de Ligue des Champions face à un huitième de finale de Ligue des Champions.
Je suis entièrement d'accord avec vous, mes amis.
Mais ils ont perdu contre la même équipe, je te signale, Salim.
Mais après.
Donc finalement, c'est une question de tirage.
Vous le savez qu'il va y avoir encore une fois, il va y avoir ce match 18 septembre, qu'il y aura un retour, qu'entre temps, ils peuvent gérer des choses. Aujourd'hui, Mo Salah est toujours absent pour moi, même s'il joue. On n'a pas retrouvé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, Paris est favori. Donc Paris trempe par rapport à Liverpool, oui, l'ambiance peut-être là-bas, mais après Paris pour moi doit faire la différence parce que défensivement, c'est vrai qu'offensivement, mais défensivement, il y a toujours ces petits, même si avec le nouveau défenseur, ça s'arrange un petit peu mieux, il y a plus d'automatisme.
J'ouvre une petite parenthèse, Mané, c'est meilleur que Salah pour
en
l'instant Salah il peut retrouver son niveau, ce qui veut dire que l'attaque de Liverpool elle pourrait être exceptionnelle quand même.
Je rappelle que Mohamed Salah, et Marc a raison de dire, par rapport à ce qu'on connaît de Mohamed Salah, par rapport à son Salah, évidemment qu'il est en dessous, il tente un peu plus, et c'est vrai qu'il est peut-être un tout petit peu moins altruiste, ou il est peut-être un tout petit peu plus Statman. J'entends par là, peut-être qu'il veut un peu plus marquer et revenir à ce qu'il faisait la saison dernière. Bon, en quatre matchs.
C'est la saison des prix qui lui donne des idées.
Je sais pas, en tout cas, il en est quand même en quatre matchs à deux buts et deux passes décisives. Ce qui est pas ridicule. Quand même, c'est enfin un joueur normal et même plus, j'ai envie de dire normal
un peu,
plus.
Un peu plus quand même.
Voilà, il est rentré dans la normalité.
Voilà. Oui, non, mais c'est ça, par rapport à ce qu'il faisait l'année dernière. Mané, on est à 4 buts. Firmino a marqué son premier but ce week-end, mais il aide au final.
Firmino, c'est grâce à lui qu'il sent bon. Il est
exactement.
Énorme. Il est énorme.
Juste, j'insiste un instant quand même. Cette équipe de Liverpool, par exemple sur le match de ce week-end, Naby Keita était sur le banc, Shakiri était sur le banc, Sturridge était sur le banc, Lallana était sur le banc.
Le réservoir
à un moment donné.
Est impressionnant.
C'est impressionnant. Vraisemblable d'avoir une équipe de Liverpool aussi forte sur les 20 dernières années, on n'a peut-être pas vu ça à ce point-là, c'est colossal ce qu'est Liverpool aujourd'hui.
Un joueur normal, c'est quoi? C'est Marc Libra, c'est ça?
À la belle époque.
À plus, hein, Marc Libra. Hein. Alors, Wich, il a fait rêver, alors Wich. Hein.
Exactement.
Parcours sans faute également de Chelsea, victoire à Bournemouth 2-0, 4 sur 4 également pour Watford. Alors là, c'est plus surprenant d'en parler la semaine dernière avec vous,
avec notre ami Salim.
Avec cette fois un succès de prestige hein, devant un autre club londonien, à savoir Tottenham 2-1. Manchester City suit de près, 2 points de moins au compteur néanmoins. Les Citizens qui ont galéré, on peut dire ça familièrement, face à Newcastle 2-1. L'équipe de Pep Guardiola qui d'ailleurs affrontera elle aussi un club français en Ligue des Champions, à savoir Lyon. Il y a un Citizen qui nous intrigue particulièrement, l'Algérien Riyad Mahrez. Il a du mal à trouver sa place chez les Sky Blues. Aucun but, aucune passe décisive pour celui qui, on le rappelle, avait été l'un des héros de l'épopée Leicester en 2016 et meilleur joueur de Première Ligue cette année-là. Que se passe-t-il? Est-ce qu'on peut déjà parler d'erreur de casting?
Non, disons que dans le jeu, de la manière de jouer, on a l'impression quand même qu'il s'entend quand même avec ses coéquipiers. Quand vous avez, de toute façon, quand vous avez des David Silva, Bernardo Silva, vous savez, ça vous facilite et ça vous permet de jouer plus facilement. Après, et j'évoquais avec Mohamed Salah à l'instant le côté statman, il veut marquer peut-être par moment, mais Riyad Mahrez, c'est l'impression qu'il donne aussi. Par exemple, il a tenté 7 tirs depuis le début de la saison, alors ce qui est pas énorme au final en 4 rencontres. Une seule frappe cadrée, sinon il manque de précision donc dans ses tirs, ou en tout cas il se force également, les choix sont également mauvais, donc j'ai pas envie de parler d'erreur de casting, surtout après 4 journées, patientons évidemment.
J'étais volontairement outrancier.
Mais bien sûr, mais oui, est-ce qu'il est en difficulté, est-ce que il n'est pas encore totalement intégré dans cette manière de jouer? Ça, c'est pas impossible, oui.
Il y a peut-être ce facteur aussi, Salim pourra plus me le dire puisqu'il suit la première ligue à fond. là il joue parce qu'il y a des joueurs qui sont absents. Après il est pas... donc il a automatiquement il faut qu'il marque des points rapidement parce que De Bruyne va revenir. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui peut se passer pour lui? Alors certes, il joue sur un côté. Peut-être qu'il peut penser à ça, peut-être.
Non, alors en sachant que lors de son recrutement, au final Pep Guardiola était assez clair, lui pourra jouer sur les trois postes, à gauche, à droite ou dans l'axe. Donc et en sachant que Pep Guardiola fait énormément tourner. Donc
comme Silva.
Exactement, Bernardo Silva était pas là ce week-end, il a pas démarré. Donc il va jouer Riyad Mahrez, il aura ses possibilités. Après, à lui de comprendre que, justement, il va devoir tourner, il va devoir aussi prendre ses chances en question.
Philippe Doucet, avez-vous peur que la marche soit un peu haute pour Riyad Mahrez?
Sur son talent, Mahrez a un talent qu'il doit lui permettre d'y arriver à Manchester City ou ailleurs. Par contre, il faut qu'il s'habitue à un football qu'il ne connaît pas. Parce qu'il a toujours joué sur autre chose, Riyad Mahrez. Même au Havre, quand j'allais le voir jouer en Ligue 2, je me souviens d'un joueur brillant qui aimait bien faire des différences, aisance technique, qui jouait, qui surjouait par moments un petit peu.
Donc là, faut qu'il lâche la balle.
Et là, tout d'un coup, il est dans un contexte très différent. Il est bien possible qu'il faille, passe par une étape comme Bernardo Silva a vécu également. Oui. Arrivé l'année dernière. On avait l'impression qu'il osait rien, qu'il fallait qu'il passe par une étape très collective, au service des autres et dans l'ombre des autres. Est-ce que Mahrez est capable? Ça, c'est autre chose. Il a pas le même âge que Bernardo Silva. Il est peut-être plus pressé.
Et pour être dans le sens de Philippe, Riyad Mahrez adore briller. Il adore ça. Et dans cette équipe, aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément lui qui va briller le plus dans cette équipe. C'est ça. Et s'il essaie, parce que pour moi, il surjoue, comme tu dis, Salim, il en fait trop, parce que des fois, il abuse. Il faut pas qu'il se trompe. C'est City, là. C'est plus pareil. C'est plus Leicester. Leicester, on pourrait lui permettre certaines choses. Mm-hmm. À City, on lui pardonnera pas.
Un peu plus bas au classement de la première ligue, Arsenal est 9e.
Lacazette. Aubameyang. And a perfect example of how those two can harmonize together. This is Torreira. And Lacazette on the spin. Well, Cardiff afforded him the sort of opportunity, but not Lacazette, not now. And Arsenal lead by the odd goal in 5.
Il nous fait un peu sourire, hein, la prononciation
Lacazette.
De Lacazette, d'Aubameyang par notre confrère anglais qui nous rappelle néanmoins, et c'est important, que si Arsenal s'est imposé à Cardiff, ça n'a pas été simple, c'est aussi peut-être parce que son duo d'attaquants, ceux qui ont été recrutés ceux qui ont été recrutés l'été dernier pour Lacazette et au mercato d'hiver pour Aubameyang, ont enfin été alignés ensemble et ils ont enfin ouvert leur compteur, un but pour Aubameyang et le but décisif pour Lacazette. Enfin, Unai Emery, l'entraîneur arrivé cet été, a compris qu'il fallait aligner Lacazette et Aubameyang pour que les deux puissent marquer.
On a attendu un mois pour ça, hein. En l'occurrence, après les trois premières journées, Lacazette était toujours sur le banc. À chaque fois qu'il entrait sur la pelouse et que donc Aubameyang et Lacazette étaient ensemble, ben, il y avait une petite étincelle, il y avait quelque chose de sympa. Alors, il n'y a pas forcément des victoires au bout, mais il y avait quand même quelque chose d'intéressant, et notamment lors de la dernière journée face à West Ham. Lacazette est entré, il y avait 1-1, la fin de match, il y avait 3-1, grâce notamment aux Français. Donc, hier, on l'a vu, les deux savent jouer ensemble. Lacazette était plus en pointe, Aubameyang plus sur le côté gauche. Et au final, les deux s'en sont bien sortis. Alors, ils n'ont pas été aidés par la défense. On évoquait tout à l'heure Marseille, qui offensivement va être intéressante, la défense, et Monaco, c'est le même cas. Exact. Arsenal, c'est exactement la même chose. Défensivement, il y en a des questions à se poser sur cette équipe qui, défensivement, fait peur pour ne pas dire autre chose. Mais offensivement, Lacazette et Aubameyang, à coup sûr, ça va marquer énormément de buts.
Ça marche, mais si je vous comprends bien, il faut que Aubameyang, il se déporte sur un côté. Oui. Ça lui va de ne pas prendre l'axe.
Oui, parce qu'ils s'entendent bien. Sur le terrain, en dehors également, mais sur le terrain, on sent qu'il y a une vraie entente. Donc évidemment, ce serait peut-être différent si Aubameyang était obligé de s'excentrer pour un joueur avec lequel il a du mal à combiner. Mais Lacazette est un formidable pivot sur lequel Aubameyang peut s'appuyer. Il peut marquer autant de buts en étant sur le côté gauche que dans l'axe. J'en suis absolument persuadé.
Sur le but d'Aubameyang, c'est pas se décider.
Absolument. Et donc, je pense que ça peut fonctionner. Maintenant, est-ce que Arsenal est capable d'être meilleur que l'an dernier? Pour l'instant, ils font à peu près les mêmes résultats, les mêmes matchs que l'an dernier avec Wenger. Donc après, on verra si notre ami Emery est capable de faire une différence. Pour l'instant, disons qu'ils sont à peu près conformes ils sont sur la même route pour l'instant.
Marc, c'est sympa de voir deux attaquants quand même d'une certaine stature pouvoir cohabiter, aimer cohabiter, alors qu'on est habitué à des pointes solitaires.
Après, c'est tout à fait normal. Quand vous jouez quelqu'un qui peut vous aider, comme c'est le cas Aubameyang, il va comprendre que sur un côté, il est plus intéressant parce que Lacazette peut faire le sale boulot, comme sur son but où il prend son défenseur, il prend son bras gauche, il se tourne, il accélère, il marque le but. Donc, Aubameyang a tout intérêt. Et puis, pour moi, Aubameyang m'intéresse quand il part de 30, 35 mètres, alors que quand il est cantonné en rôle d'attaquant où il est à 25 mètres du but, qu'il faut qu'il se retourne, c'est un petit peu différent. Après, défensivement, que ce soit Guendouzi, Chaka, la défense, ça sera autre chose. Certes, ils marqueront des buts, mais par contre, il va falloir aussi les approvisionner.
En fait, je profite de votre présence, Marc, parce que vous avez connu ça, côtoyer un attaquant et un grand attaquant, le grand Tony Cascarino, ouais, à l'époque de Marseille, deux buteurs, donc, qui marquaient beaucoup de buts, mais à un moment donné, on se dit pas, même si vous entendez bien sur le terrain, pour ça, j'ai envie de tirer la couverture.
Oui, on parle de l'égoïsme du buteur, généralement.
Ouais, mais j'en ai tiré le maximum de Cascarino. Certes, lui, il met 62 buts, j'en mets 30. J'en mets deux fois moins, mais par contre, j'ai profité de son remise, de son jeu. Moi, j'étais le coureur autour de lui, mais lui a profité. Et là, Aubameyang, pour moi, il a tout intérêt à le récupérer, parce que ça va sur son fameux but enroulé. C'est Lacazette qui décroche, qui lui donne le ballon, et l'intelligence d'Aubameyang qui est capable d'enrouler, parce que c'est un super but qu'il met. Donc, c'est pour ça que les deux ont tout intérêt, et on est obligé de profiter. Si on est un petit peu intelligent, on profite de cet attaquant-là.
Donc nos plus jeunes auditeurs sont prévenus, hein, direction internet, les vidéos,
pour, Cascarino Libra,
les compilations, ça, des meilleurs,
c'était des cassettes à l'époque, c'était des cassettes.
Libra, Cascarino. Donc si vous avez
Monsieur Philippe Doucet était là déjà, il était là, il présentait. Vous
n'hésitez pas avec les analyses, graphiques de Philippe Doucet derrière en plus.
Devant moi, il était gentil. Après, il me cassait à la télé. Vous vous rendez compte?
Là, on parle des
c'était les premières stats de Philippe.
Exactement.
Cassé Libra, c'est une performance.
On parle des joueurs qui brillent.
Il est dur au mal.
On parle des joueurs qui brille actuellement en première ligue. Parlons d'un joueur qui la quitte après 8 années, 8 saisons de bons et loyaux services. Rapidement, Yaya Touré, Philippe Doucet, qui retrouve son ancien club, l'Olympiakos. Il avait joué là-bas de 2005 à 2006. Yaya Touré, une légende qui s'en va à Manchester City. Pourquoi va-t-il en Grèce, selon vous?
Bah, apparemment, il n'a pas dû avoir les propositions, parce que je pense qu'il avait très envie de rester en Angleterre. Des clubs un peu claudiquants, comme celui qu'adore Salim, par exemple.
Bien sûr,
des clubs
un peu de l'Est londonien,
des clubs un peu tordus et autres auraient pu être une. Mais je pense que ça aurait été une voie de garage en même temps. Je pense que ça aurait été dur pour Yaya d'aller jouer dans une équipe difficile de ce genre-là, Crystal Palace ou West Ham ou autre. Je trouve que quelque part, c'est peut-être mieux de s'éloigner un peu, de retrouver une étape qu'il a connue, mais il sera moins en lumière. C'est la fin de carrière, hein, pour Yaya.
On rappelle qu'il quitte Manchester City après notamment trois premières ligues remportées, le champion d'Afrique 2015.
C'est la fin d'une aventure.
C'est vrai qu'on a souvent évoqué West Ham, puisque Manuel Pellegrini est l'entraîneur de West Ham, qui l'a connu à City, et Pellegrini le voulait, en l'occurrence. Alors, au-delà de l'aspect financier, puisque West Ham a de l'argent, en l'occurrence, on aurait pu lui en donner. Et Philippe, vous l'avez bien dit, à un moment donné, faut être un peu intelligent. Est-ce que c'est mieux de finir sa carrière dans une équipe qui va jouer le maintien, disons-le clairement, ou être accueilli en héros, puisqu'il a été accueilli comme une star par les supporters de l'Olympiakos? Vaut mieux finir
jouer
tranquillement
le titre,
et sereinement là-bas. Et jouer le titre en plus, exactement. Ouais. Vaut mieux être là-bas et jouer le titre qu'être à West Ham et jouer le maintien.
Marc, vous validez tout ce qui a été dit?
Je valide, mais après, c'est pour moi, c'est le stand. On commence à ranger la F1, on va commencer à la ranger, quoi. C'est une voie de garage, parce que pour moi, il a de plus en plus de mal, c'est de plus en plus difficile. En fait, même si tout le monde l'attend, ça va pas être aussi facile. Ils vont tous l'attendre, parce que c'est le retour de la grande star. Il arrive de City, donc attention que ça soit pas un échec.
Non, mais il est en partie intelligent aussi quitter la PL. Au final, s'il aurait voulu rester, à un moment donné, l'intensité de la première ligue fait que même à West Ham, ça aurait été beaucoup.
Exactement. La PL, quand on prononce les noms complètement, les mots complètement en entier.
La première ligue.
Vous nous avez sorti un milieu def tout à l'heure.
Que je n'ai pas.
Milieu
défensif.
C'est pas grave, je suis un peu.
Hugo, vous n'êtes pas assez intime avec la PL.
Effectivement.
Pas intime.
Liverpool, PSG.
C'est la nouvelle télé. On abrège les mots, on a trop de choses à dire.
Non, mais c'est bien. C'est le nouveau monde. Vous avez raison. On se projette sur l'avenir. Et l'avenir, c'est aussi la Ligue des Champions. Liverpool, PSG le 18 septembre. City, Manchester City, Lyon le 19. Des rencontres à suivre sur RFI, et promis, ce ne seront pas les seuls.
The best FIFA men's player of the year, Cristiano Ronaldo, Luka Modric and Mo Salah.
Alors, qui sera the best, soit le meilleur joueur selon la FIFA, en tout cas selon la deuxième édition du prix créé par l'instance dirigeante du football mondial, né des cendres du Ballon d'Or qu'elle a décerné en partenariat avec France Football durant la première partie des années 2010. Bonjour, bonsoir Alejandro Valente.
Bonsoir Hugo, bonsoir à tous.
Est-ce que vous pouvez simplement, on va revenir sur ce trio de finalistes qui a été dévoilé par notre réalisateur Guillaume Ploquin, juste revenir sur le principe du prix The Best, comment ça fonctionne? C'est comme l'ancien Ballon d'Or?
C'est pas exactement comme l'ancien Ballon d'Or, parce que l'ancien Ballon d'Or, vous l'avez dit, était organisé en partenariat avec France Football, donc il y avait une partie du jury qui était gérée directement par France Football. Là, tout est géré par la FIFA. Alors, il y a les capitaines, il y a les sélectionneurs, il y a un panel de journalistes choisis par la FIFA. Voilà, c'est donc un ensemble assez hétéroclite qui élit. Et à l'arrivée, on a le même trio qu'on a eu la semaine dernière pour le prix de l'UEFA.
À savoir
Luka Modric, Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah. Sauf que là, c'est plus l'UEFA, c'est la FIFA. Et on pouvait s'attendre de la part de la FIFA, organisateur de la Coupe du Monde, à qu'un vainqueur de la Coupe du Monde au moins figure parmi les trios de finalistes. Donc, ça a un peu des allures de, je dirais pas des catastrophes industrielles, un petit peu, parce que la FIFA elle-même n'aimait pas en avance sa compétition phare. C'est quand même très étonnant.
Il y en a un qui a pas aimé, un certain Didier Deschamps.
Ah ouais? Et pas mes joueurs? Comme je l'ai déjà dit avant que cette nouvelle tombe, un Français l'aurait bien mérité. Ne serait-ce que par rapport au titre de champion du monde, qui n'est pas quand même quelque chose d'anodin, mais par rapport à la saison qu'ils ont pu réaliser aussi. Je suis déçu pour eux, parce qu'ils méritaient d'au moins faire partie des trois.
Et encore, il est sympa, Didier Deschamps, il dit simplement qu'il est étonné ou déçu. C'est hallucinant.
C'est très étonnant, mais on a pris l'habitude d'être étonné quand même ces dernières années, les prix donnés par la FIFA, ou même quand c'était le Ballon d'Or, puisque c'était quand même un Ballon d'Or qui était plus marqué par la FIFA que par France Football pour les années communes. On a pu être surpris plus d'une fois par des votes qui ressemblaient à des votes sur qui pour vous est le meilleur joueur.
Vous voulez dire sans prendre en compte la saison écoulée.
Exactement, sans prendre en compte, on a l'impression que le palmarès, à la limite, bon, je dis pas qu'il était accessoire, mais Ronaldo devançait Messi quand le Real avait fait mieux que le Barça, en gros. Si le Barça avait fait mieux que le Real, c'est Messi qui était devant Ronaldo. Mais chaque fois, invariablement, on retrouvait les mêmes joueurs. C'était en l'occurrence à chaque fois Messi, Ronaldo, Neymar, en gros, pour toutes les dernières années, parce que les capitaines, les sélectionneurs considèrent, sans doute à juste titre, hein, je conteste pas ça, ce sont les meilleurs joueurs. Alors cette année, c'est un petit peu modéré quand même, puisque Modric apparaît, Messi n'est pas là, donc c'est un peu matiné. Mais justement, quitte à matiner, c'est quand même un tout petit peu étonnant que ce ne soit pas matiné avec une touche Coupe du Monde, parce qu'à part Modric, les autres n'ont pas brillé en Coupe du Monde, donc c'est très étonnant.
Voilà, quand on pense par exemple à la Coupe du Monde, Antoine Griezmann, donc l'un des buteurs de cette équipe de France, qui a aussi gagné une Europa League quand même avec l'Atlético, qui a amené cette formation aussi haut. C'est vrai que c'est ça au final, à mon sens, peut-être Raphaël Varane aussi, d'ailleurs, la présence
avec le Real,
défenseur,
ouais.
Par exemple, même si on le sait toujours, un défenseur part avec une longueur de retard.
C'est moins joli.
C'est moins joli, on va dire.
C'est pour ça que j'étais attaquant.
Exactement. C'est ça. C'est pour ça que vous marquez
Je vous ai pas vu dans la liste des nommés pour le Ballon d'Or, mais faudrait que je me replonge.
Non, pour les légendes. Au classement des légendes. Je cherchais Marc Libra, les anciens, les légendes.
Mais c'est vrai que c'est surprenant, par exemple, de Mohamed Salah. Alors oui, il réalise une saison exceptionnelle avec Liverpool. On est tous d'accord. On a suffisamment parlé. Après la Coupe du Monde, rien avec l'équipe d'Égypte, forcément. Donc c'est très surprenant de voir ça. Cristiano Ronaldo, il fait une saison remarquable avec le Real.
En même temps, pour le football africain, ça marque une reconnaissance très forte.
Forcément.
On est africain et la première ligue, bien sûr. Il faut le modérer aussi.
Malheureusement, j'ai envie de dire la première ligue surtout. Pour le
ça prouve que en ce qui concerne les capitaines et les sélectionneurs, il y a une appréciation de ce qu'est Mohamed Salah fantastique, puisque ça dépasse une Coupe du Monde ratée.
Mais il faut rappeler quand même une chose. Depuis que les Ballons d'Or étaient devenus universels, parce que jusqu'en 95, c'était réservé aux joueurs en Europe. Donc, 98, Zidane, champion du monde. 2002, Ronaldo, champion du monde. 2006, Cannavaro, champion du monde. 2010 et 2014, ça s'est organisé avec la FIFA et justement on avait pointé le fait que ni l'Espagne ni l'Allemagne n'avaient pu porter un des joueurs.
C'est parce que la FIFA ne maîtrise pas du tout les votes, parce sinon.
Alors on n'a pas entendu la question d'Alejandro, mais la remarque est judicieuse. Le Ballon d'Or revenu à son ancienne formule, à savoir avec un collège d'électeurs composé uniquement de journalistes, arrive. Ce sera pour décembre. Est-ce qu'on peut espérer y voir un Français, espérer, c'est pas parce qu'on est Français qu'on dit ça, mais est-ce qu'on peut imaginer y voir un Français, ou bien est-ce que le trio Salah, Modric, Ronaldo
je suis persuadé qu'un Français gagnera le Ballon d'Or, j'en suis persuadé.
Alors lequel?
Parce que je pense que Griezmann est un bon candidat, évidemment, mais je pense que il y aura à la fois une réaction peut-être à ce best, justement, en disant mais c'est pas possible que la Coupe du Monde soit pas valorisée. Ensuite, ce sont des journalistes. Je dis pas que les journalistes votent mieux, c'est pas ce que je dis du tout, mais ils votent davantage sur le côté ah bah attendez, on juge de janvier à décembre. Alors qu'a-t-il fait de janvier à décembre? Alors qu'un sélectionneur va dire bah moi j'adore Messi. J'adore Ronaldo, je trouve que c'est fantastique ce qu'il a fait, voilà. Et tant pis s'il est éliminé en huitième de finale de la Coupe du Monde. Voilà, je considère les choses telles quelles. Alors que je pense qu'un journaliste va peut-être voter différemment. Et puis il y aura peut-être un aspect un peu marketing aussi, hein, faut pas le nier non plus, hein.
Pour se différencier?
Se différencier un peu de The Best et puis favoriser un joueur qui a une aura marketing supérieure à un Modric, par exemple, qui vient d'être récompensé.
Après, c'est des journalistes qui votent chacun dans leur coin. Hein,
ils
donc,
sont pas briefés par la rédaction de France Football.
Je crois
voilà.
pas, en tout cas.
La FIFA ne briefe vraiment visiblement pas, parce qu'elle aurait valorisé la Coupe du Monde, sinon, me semble-t-il, non?
Mais est-ce que ce prix The Best, il compte, Alejandro Valente, ceci un peu la question qu'on peut être tenté de se poser, ce n'est que sa deuxième édition.
Disons que les Best a évolué, parce que à une époque, juste avant la fusion avec France Football, pendant quelques années, il voulait concurrencer clairement le Ballon d'Or et devenir plus important. Là, ils se sont positionnés autrement. C'est plus un gala que l'importance du prix en lui-même. D'ailleurs, il y a plein de prix. Il y a les meilleurs entraîneurs, la meilleure joueuse. Il y a même les meilleurs supporters. On a vu que les supporters péruviens, sénégalais ou japonais...
C'est un genre de titre qu'on adore.
...sont en concurrence. Enfin, donc, c'est un peu un fourre-tout qui justifie l'organisation d'un grand gala à Londres avec des flonflons, des paillettes.
Le 23, 24 septembre.
Le 24 septembre, 24. Alors que France Football reste sur quelque chose de beaucoup plus sobre et concentré uniquement sur un joueur.
Justement, vous l'avez dit, un gala, justement. Pardon, mais on le voit régulièrement à travers les différentes cérémonies où il y a des galas. C'est pas forcément c'est des paillettes, oui, certes, mais c'est pas forcément les titres dont on se souvient, même à chaque fin d'année quand on a les trophées UNFP en Ligue 1. On se souvient vite fait et encore, j'ai envie de dire, alors que au final le Ballon d'Or reste relativement sobre, presque ancien entre guillemets, mais c'est peut-être ça qu'on retient un peu plus.
Oui, mais parce que c'est le seul titre dont on se souvient, le Ballon d'Or. Très honnêtement, moi tous les autres, je m'en souviens pas. Bah, déjà évidemment. Le Ballon d'Or, je les oublie, mais ces titres-là, je les oublie. J'ai déjà oublié. Quel est le titre qu'a eu Modric récemment? C'est l'UEFA, mais c'était quoi?
C'est le titre de meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions.
Ah, en Ligue des Champions. D'accord. En compétition européenne.
UEFA,
mais ça veut dire quoi?
Compétition Champions ou Ligue Europa?
Ouais. Ça veut dire en compétition européenne.
Mais ça peut couvrir aussi les compétitions non organisées par l'UEFA. Ça couvre la saison.
Ah, d'accord. Alors, simplement.
Vous voyez, on comprend rien.
Simplement, pour être précis, c'est la troisième édition du prix The Best. J'ai dit deuxième. Non, c'est un prix qui a déjà une très longue histoire.
Ronaldo ne vient pas s'il gagne pas, c'est ça?
Voilà. C'est ça. Bah alors justement, allez-y, les paris sont ouverts, qui va être The Best?
Bah si Ronaldo est là, ça veut dire qu'il a gagné.
Pour moi, moi je vote Modric.
La Coupe du Monde,
puis sa saison, voilà. Il y en a deux qui sont pas à leur place, donc le seul qui a l'intérêt pour moi, c'est Modric. Ça serait logique.
Je pense que l'UEFA, ça aurait pu être Ronaldo, mais par contre, pour le prix FIFA, intégrant la Coupe du Monde, il me semblerait logique que ce soit Modric. Parmi les trois, en tout cas.
Ah oui, parmi les trois, on n'a pas le choix, là.
À noter que deux Français, néanmoins, sont nommés pour le prix entraîneur. Ça va être le meilleur entraîneur.
Giroud.
Zlatko Dalic est accompagné par Didier Deschamps et Zinedine Zidane.
Ça récompense deux entraîneurs qui ont eu des équipes qui ont beaucoup réussi quand même cette année. On peut difficilement contester leur présence.
Et là, je voterai Croatie. Parce que d'aller jusqu'au bout avec cette équipe-là. Non, mais c'est vrai, dès
oui,
le départ.
C'est...
Non, mais
franchement, non, c'est une bonne remarque. C'est... Voilà. À noter également un gardien français, bah, le gardien français titulaire,
hein,
Hugo Lloris, compagnie de Courtois et de Schmeichel, le portier de Leicester. Et puis un entraîneur français également, entraîneur parmi les trois meilleurs entraîneurs d'équipe féminine, à savoir Reynald Pedros. Et oui, Reynald Pedros, que vous avez côtoyé à l'OM.
Exactement, et j'en profite, puisque Olivier Chouafny est l'entraîneur du PSG féminine.
C'est la fin de Radio Foot. Merci, messieurs. Et on revient demain. Ciao.
À l'année prochaine.